7h28, le président de Hydro-Québec est avec nous. Évidemment, on a beaucoup de questions. Éric Martel, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
Beaucoup de questions. Je vais commencer ce matin d'abord par les tarifs, parce que c'est un niveau de préoccupation de nos auditeurs. On sait là, que depuis plusieurs années, il y a des surplus qui sont faits et que la dernière mouture, c'était 50-50, 50 en retour au consommateur et le reste au gouvernement. Là, M. Legault dit que dans le futur, ça ne sera pas ça, que ça va retourner aux gens, là. Concrètement, là, si on devait faire un tableau ce matin, en moyenne, là, on parle de combien de millions par année qu'on a en surplus?
Bon. L'an passé, c'était plus qu'à l'habitude, c'était 180 millions de dollars.
OK. Okay?
Et on en remet le deux tiers, hein, parce que des fois, c'est la moitié, des fois, c'est le deux tiers, puis je pourrais expliquer pourquoi tantôt. Donc, à peu près 120 millions qu'on va retourner à la clientèle, et il y a 60 millions qui restaient avec nous. Puis peut-être que je rappelle juste c'est quoi un écart de rendement ou un trop perçu, là, comme on les appelle dans l'actualité. C'est que nous, à chaque année, à peu près un an et demi d'avance, on va devant la Régie de l'énergie puis on discute du budget. Et on dit, pour rendre le service aux Québécois, ça va nous coûter, exemple, 11 milliards ou 12 milliards de dollars. Et évidemment, c'est un budget. On regarde ça ligne par ligne avec la Régie de l'énergie puis on part avec ça. Puis c'est comme ça que les tarifs sont établis. Alors, on va dire ça va coûter aux Québécois 7,8 cents de kilowattheure. Pendant l'année, il arrive des choses, hein. Il y a des coûts. Et nous, évidemment, comme gestionnaire, vous le savez, c'est normal.
Mais ça, on comprend ça qu'il peut y avoir. Je pense que les gens comprennent le phénomène.
Oui.
Mais prenons le cas de cette année. Si on avait appliqué cet écart de 180 millions, vous dites?
Oui. Mais on en remet 120, comme je vous dis.
Oui. Mais si on l'avait appliqué à 100%, est-ce qu'il y aurait eu une hausse des tarifs moins élevés?
En fait, si on retournerait tout à la clientèle, il y aurait une légère baisse. Ça serait 60 millions de dollars de moins sur un dossier d'à peu près 12 milliards. Donc, ça serait minuscule.
Mais au fil des ans, ça aurait été quand même assez important.
Au fil des ans, il y a quand même une accumulation qui a eu lieu. Et tu sais, le débat est là. Nous, Hydro-Québec, évidemment, on respecte la loi. Il y a eu un choix qui a été fait dans le passé quand il y avait un déficit à Québec qu'on le gardait au complet. Et présentement, on est retourné à ce que la loi dit de faire. Alors, il y a un rendement, il y a une partie que si on est à 50 % de retour et si on dépasse 1 % notre rendement qui est attendu avec la régie, à ce moment-là, ça tombe aux deux tiers puis il y a une table comme ça. Alors, cette année, on retourne 120 quand même, ce qui est quand même significatif. Et vous le savez, hein, on gère ça, je vous l'ai déjà dit, on gère ça pour le mieux possible pour le bien-être des Québécois. Alors, quand on fait notre budget, on s'assure au début de l'année qu'on va le maintenir puis qu'on va arriver un petit peu en dessous. Et on réussit avec 50 millions, 120 millions. L'an passé, l'écart était un peu plus grand. Mais comme je vous dis, on retourne quand même 120 millions.
Quelles sont les sources d'énergie qui ne sont pas payantes pour Hydro-Québec, qui représentent un coût additionnel? Bref, où vous n'en avez pas besoin, ou ça coûte trop cher?
Ça, c'est une excellente question. Vous savez, on a un pacte social Hydro-Québec avec les Québécois, que vous soyez aux îles de la Madeleine ou à Saguenay ou à Montréal, tout le monde paye le même prix. C'est sûr et certain que dans un centre cosmopolite comme Montréal, ça coûte moins cher pour nous, hein, de livrer le service parce qu'il y a plus de clients au
kilomètre. Mais moi, c'est pas tant la livraison que les sources.
Ben, les sources, ça peut être le mazout. Hein, on a des endroits où, que dans des réseaux éloignés qui ne sont pas connectés à notre réseau, où ça peut coûter 20-25 cents de livrer le service ou peut-être même plus. Et évidemment, ben, ces gens-là vont payer quand même 7,8 cents. Alors, il y a une perte. Fait que c'est sûr que si on est sur le mazout, si on est sur le diesel ou d'autres formes d'énergie, dans des réseaux éloignés, c'est plus coûteux que si
on est. Et l'éolien, on en est où ce matin, là?
Bien, l'éolien, hein, on a des contrats, comme vous le savez. Mais l'éolien devient de plus en plus compétitif en termes de prix. Et ça, je l'ai toujours dit. Moi, évidemment, on a signé des contrats à 10 sous, ce qui est beaucoup présentement. Puis je pense que ça a fait un rapport de la VGQ l'an passé et tout ça. Puis vous connaissez cette situation-là. Mais quand je regarde dans le futur, moi, je dis toujours depuis que je suis là, je pense qu'en 2021, on va avoir une décision à prendre sur la suite des choses. Est-ce qu'on construit un autre barrage hydroélectrique qui va se construire dans 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis ça prend quand même beaucoup de temps quand on prend cette décision-là, ou est-ce qu'on va aller vers l'éolien? Et là, ça dépend de qu'est-ce qu'on a de besoin, si on a besoin d'énergie ou si on a besoin de puissance. Puis je fais la différence entre les deux. Vous savez, l'éolien, évidemment, s'il ne vend pas, bien, il n'y a pas d'énergie. Alors, si j'ai vraiment besoin de quelque chose en
mais
temps
d'après
précis,
vous, on s'en va vers quoi? L'éolien ou le barrage?
Bien, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous le dire, honnêtement. On regarde tout ça, puis ça va dépendre. La demande au Québec baisse. Alors, ça fait qu'on a besoin, on a des très, très grands ouvrages aujourd'hui. Vous le savez, on travaille fort à exporter notre électricité parce qu'on est en surplus. Mais dans quelques années, avec aussi le phénomène de digitalisation, l'efficacité énergétique, hein, c'est un sujet de l'heure, puis c'est une transformation présentement dans le monde énergétique. Les gens veulent payer moins, puis c'est normal, hein, puis il y a des moyens digitaux, vous pouvez programmer sur votre téléphone, votre iPad, vos thermostats pour consommer moins quand vous n'êtes pas là. Alors, tout ça, nous, on évalue que depuis 10 ans, il n'y a eu aucune croissance au Québec, et même on voit dans le futur qu'il y aura peut-être une baisse. Alors, c'est pour ça que nos projets d'exportation deviennent importants, puis les décisions futures vont être en fonction de ce qu'on a de besoin.
OK, je fais une parenthèse concernant les tarifs. On sait que depuis le début de la semaine, Hydro-Québec a le droit de débrancher les mauvais payeurs. Toujours ça, le 1er avril. Est-ce que c'est pas un peu tôt, le 1er avril? Ça pourrait pas être le 1er mai, là, quand je regarde la température, là, encore aujourd'hui, puis dans les prochains jours?
Ouais, puis ça, c'est un point important. Là. Nous, on est toujours... On n'arrive pas le 1er avril, puis on commence à débrancher des gens automatiquement. On va toujours regarder Hydro-Québec. La loi nous permet de le faire, mais évidemment, on va regarder la température. Si la température est froide, on va attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, dépendamment, pour justement pas créer de situation comme vous faites allusion.
Mais si la loi disait le 1er mai, ce ne sera pas un problème non plus, de base, si c'est ça que vous faites?
Bien, je pense que le 1er avril, des fois, c'est possible. OK? Alors, on se garde la possibilité de le faire le 1er avril, mais comme je vous dis, on va toujours s'assurer de ne pas mettre aucune famille en difficulté de ce côté-là. Mais tu sais, en même temps, M. Arcand, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que dans l'ensemble de tout ça, OK, on continue, Hydro-Québec, d'avoir les meilleurs tarifs en Amérique du Nord. Puis, tu sais, fait qu'on parle de trop perçus, on parle de toutes sortes de façons de polémiques, peut-être, mais. À la fin de la journée, il faut que les Québécois, on réalise okay, qu'on est privilégié. On a un modèle où ce qu'on est 99,5% renouvelable. Il y a peu de monde sur la planète. En fait, il n'y a personne d'autre qui peut dire ça. On a un modèle qui est rentable. Hein. Hydro-Québec produit des profits pour le bénéfice de tout le monde. Et de l'autre côté, on a des tarifs extrêmement compétitifs qui attirent des industries.
OK. Là, on va parler d'environnement. Parce que là, votre feuille de route n'est pas très bonne à Hydro-Québec. Là, je prends deux exemples. Le premier cas, c'est évidemment Saint-Adolphe-d'Howard. Il y a eu des blâmes du ministère de l'Environnement. Là, vous allez me dire quoi? C'est le sous-traitant qui l'a échappé dans la construction, puis dans... Il y a des violations des règles environnementales. Comment ça se fait que Hydro-Québec, qui se targue d'être vert et de responsable, a pu faire une job aussi tout croche à Saint-Adolphe-d'Howard?
Puis j'apprécie que vous m'en parliez, parce que ça me donne l'occasion. Premièrement, des projets en acceptabilité sociale pour l'environnement, on en a des centaines, OK? On en a très peu qui sont difficiles, comme celui-là de Saint-Adolphe l'a été, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, chez nous, là, l'environnement, c'est dans... J'ai 175 personnes qui font de l'environnement. J'ai des spécialistes dans toutes sortes de métiers, dans des types de poissons, dans les rivières, dans n'importe quelle flore à peu près qu'on peut retrouver au Québec. Et on se fait toujours un devoir de bien faire les choses. Saint-Adolphe est un projet difficile pour nous. Hein, puis vous le savez, on a eu de la difficulté à s'entendre avec la communauté, une partie de la communauté, je devrais dire. Mais c'est clair que quand on a voulu atténuer l'effet visuel okay, des pylônes qui passaient sur la montagne, on les a mis en flanc de montagne. On s'est donné pas mal de difficultés. On avait un défi technique parce qu'on se construisait dans un flanc de montagne très escarpé. Et on était un peu malchanceux à l'automne. C'est qu'on a eu une pluie diluvienne à un certain moment qu'on ne s'attendait pas, puis qui est très, très rare, qui a fait qu'il y a eu de l'écoulement, des sédimentations qui s'en allaient vers les réseaux d'eau. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est lésiné. Là-bas, on a des terrains de football, de bassins de rétention pour être capable de justement d'accueillir ça si ça arrive. Et nos bassins n'ont même pas été suffisants. Là, on regarde ça, on a dit, bon, on a une situation particulière.
Mais il faut croire que le ministère de l'Environnement n'a pas été convaincu de ça. Là. C'est un blâme. Là. C'est pas juste une remarque, c'est pas une observation, c'est un blâme qui a été adressé.
Mais je vous le dis, moi, on regarde ça, notre équipe et nous, puis on dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Puis là, on est en train de prendre des moyens qu'on n'a jamais pris avant pour justement s'assurer que dans les trois prochaines années, il n'y en a pas.
Prenons le cas de ce matin qui est dans la presse. Vous avez des terrains là, qui appartiennent donc à Hydro-Québec, le long de la rivière Rouge. D'abord, on parle de terrains qui valent combien?
Écoutez, j'ai pas le prix de ce terrain-là. Hein. J'en ai plusieurs des situations où on a des terrains qu'on échange ou qu'on vend au Québec. Celui-là, c'est un terrain d'à peu près 400 hectares. Okay? C'est quand même assez significatif. Ça fait 3 ans qu'on a eu des discussions avec la MRC parce qu'on savait que bon, les gens, nous, on leur charge un loyer minimum depuis plusieurs années. Hein? On parle de 1 000-1 500 $ par année environ, juste pour accommoder tout le monde. Et là, le terrain, on n'en a plus de besoin. Fait que moi, comme gestionnaire d'Hydro-Québec, je dois regarder mon équipe et je lui dis qu'on n'a plus besoin de ce terrain-là, fait qu'on devrait le vendre pour justement le bénéfice de tous les Québécois et d'Hydro-Québec. Et là, on est dans une situation. On leur a offert.
Là, il faut que les gens comprennent. Là, c'est des compagnies de rafting qui sont là. une attraction touristique dans le coin sur la rivière Rouge, puis les gens vont faire du rafting.
Et ça, on est très sensible à ça. Là. Fait que moi,
est-ce qu'il est vendu? Avez-vous des acheteurs?
Oui, on avait un acheteur potentiel qui, lui, refusait d'avoir cet accès-là, cette servitude-là pour le rafting. Alors là, je ne connais pas le dossier, justement, ça donne qu'en fin de semaine, j'ai demandé à mes gens de le revoir, fait que je le revois dans quelques jours, puis on va regarder c'est quoi la bonne chose à faire. T'sais, moi, en bout de ligne, souvent, on se ramasse dans des situations comme ça. On a des millions de pieds carrés de terrain au Québec, Hydro-Québec, mais c'est notre devoir aussi, s'il y a des terrains qu'on n'utilise pas, de les revendre, puis de permettre des fois à des business de démarrer.
Mais allez-vous vous assurer que le côté touristique va être protégé, que l'industrie du rafting, qui est quand même majeure dans le coin, là?
C'est clair que ça va être un des facteurs importants dans la décision. Là. T'sais, je veux dire, c'est une industrie qui est importante dans le secteur. Nous, on a un terrain, on a travaillé.
Mais il est à vendre, c'est sûr,
Mais il est à vendre, c'est sûr et certain. On n'en a pas besoin.
OK. Un mot sur les exportations, c'est que c'est une des priorités. On a une entente avec le Massachusetts.
Oui.
Là, il faut savoir par où ça va passer.
Exact.
Le Maine est maintenant le corridor qui est regardé.
C'est le corridor privilégié.
Il y a des oppositions que j'ai vues. Il y a des groupes qui sont favorables. Là. Quelle lecture vous faites? Là? Okay. Ça va passer ou pas?
Écoutez, ça avance très bien. Okay? C'est que, premièrement, vous savez, il y a eu des élections à l'automne dernier. La nouvelle gouverneure, la gouverneure Mills, qui est en poste présentement, s'est prononcée il y a quelques semaines favorable au projet. C'est normal, hein? On doit passer par le Maine pour aller au Massachusetts, alors on devait s'assurer qu'il y avait des retombées importantes. Et elle a toujours été claire, elle dit, s'il y a des retombées suffisantes, on va être heureux puis on va travailler avec vous. Alors elle est heureuse des retombées qu'il y a, parce qu'il y a des emplois de créer, on va les aider dans toutes sortes d'autres domaines. Mais ce qui est important, c'est que là, cette semaine, justement, les fonctionnaires c'est l'équivalent de la régie, là, au Maine, se sont prononcés favorablement, là, vendredi soir, sur le projet. Ils ont dit, écoutez, nous, on évalue qu'il y a des retombées suffisantes. Alors, la décision du PUC, qu'on appelle, qui est le Public Utility Commission, qui est l'équivalent à peu près le pendant de la régie chez nous, va rendre une décision officielle dans les deux prochaines semaines. Ensuite de ça, on a, évidemment, le permis environnemental. Fait que les choses avancent très bien et normalement, pour l'instant, on n'a pas d'embûche qu'on voit.
Avez-vous d'autres options si ça ne marche pas dans le Maine?
On avait d'autres options. Hein. On avait celle du New Hampshire au début qui a trébuché, mais elle pourrait revenir. Puis ça, c'est important parce que là, bon, notre partenaire, il est devant la Cour suprême là-bas pour faire retourner ça au comité parce qu'il y a eu des bris de processus. Et on a des permis aussi au Vermont. Il faut savoir qu'au Vermont, on a déjà tous les permis, mais c'est un projet plus coûteux. Mais c'est important pour le Québec. Vous le savez, on est en surplus.
C'est quoi, c'est 10 milliards, c'est ça?
À peu près, par année de revenus, dans ces eaux-là, même peut-être un petit peu plus. Alors, c'est très profitable pour nous. Vous savez, on a construit de la capacité au Québec, on l'a déjà. Hein? Puis, il faut s'assurer de l'exporter pour la monétiser puis de justement rendre Hydro-Québec au bénéfice des Québécois plus profitable.
M. Martin, merci beaucoup d'être venu
ce matin.
Le président de Hydro-Québec, 7h40.